Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur OpenStreetMap avec donc Christian Kest, porte-parole d'OpenStreetMap France. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors c'est la deuxième émission. Alors déjà je vais préciser tout de suite avant d'oublier que si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, eh bien, vous pouvez vous connecter sur le salon web de la radio causecommune.fm. Tout en haut, il y a un bouton qui s'appelle chat ou nous appeler au numéro 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Et Étienne en régie attend vos appels. Alors, j'allais dire que c'était la deuxième émission sur OpenStreetMap, car nous avons consacré une première émission le 11 juin 2019, donc déjà avec Christian Kest et avec Noémie Lehubi d'OpenStreetMap France. Donc les personnes qui voudront réécouter cette émission, le podcast est disponible sur le site causecommune.fm et sur le site de l'April. Et donc on va faire une deuxième émission. On va revoir un petit peu en introduction quand même un certain nombre de points qu'on a évoqués sur la première émission, parce qu'on suppose que tout le monde ne l'a pas forcément écouté. Et on va aborder un certain nombre de nouveaux points. Alors déjà, première question, une présentation individuelle rapide. Christian, un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire malgré ta longue expérience, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ?
Je suis contributeur sur le projet OpenStreetMap depuis 2009. J'ai fêté mes 10 ans d'inscription cet été. Et je suis un des fondateurs de l'association française OpenStreetMap France qui fait la promotion du projet en France.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit historique sur... Le projet OpenStreetMap, c'est quel était le problème à régler, à quel moment, et quel est finalement l'objectif de ce projet ?
La naissance, c'est 2004. Un étudiant anglais avait besoin pour sa recherche de données géographiques. Il s'est adressé à l'équivalent de l'IGN en Angleterre qui s'appelle l'Ordnance Survey, espérant obtenir les données en question pour pouvoir travailler. Et il a compris que c'était très compliqué. Il a trouvé ça anormal que des données produites avec de l'argent public ne soient pas ouvertes. On était encore très très tôt par rapport au mouvement d'Open Data, mais voilà. Ça... Et du coup, il s'est dit, mais et si on créait une base ? Et voilà, c'était un projet complètement utopique, mais c'est génial parce que ça a marché.
Et donc, il y a eu le choix d'une licence, donc c'est l'Open Database licence, c'est
oui, ça ? Alors on a eu un changement de licence, je vais passer ces détails-là, mais oui. Aujourd'hui, les données sont sous licence ODBL, Open Database License. Donc, c'est une licence libre qui, avec attribution et avec partage à l'identique. Donc, l'idée, c'est que toutes les améliorations qui peuvent être faites sur les données, elles doivent être repartagées. Par contre, une chose importante par rapport à cette licence, c'est que ce que l'on fait avec les données, si ça n'est pas une base de données, ça n'a pas à être sous la même licence, vu que c'est une licence qui s'adresse qu'aux bases de données. Donc si je produis une carte papier, si je fais une appli ou quelque chose comme ça, on n'a pas du tout de partage à l'identique à respecter. C'est vraiment, le partage est limité à améliorer la base, parce que c'est le cœur, c'est l'essence du projet.
D'accord. Et donc, l'objectif, c'est de dessiner le monde et avec des données libres et de permettre un mot-clé qui est sans doute important dans OpenStreetMap, c'est que c'est collaboratif. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut contribuer à cette carte, contrairement à d'autres cartes où elles sont simplement utilisatrices.
Oui, tout à fait. N'importe qui peut améliorer la carte, la compléter, venir rajouter des informations, venir corriger des erreurs et la mettre à jour, parce que le terrain ne fait que de changer et donc il faut sans arrêt mettre à jour les bases de données cartographiques.
D'accord. Alors on va donner le site principal, parce que je l'ai oublié, donc c'est openstreetmap.org, ça c'est le site principal.
C'est le site international, oui.
Le site international. Le site d'OpenStreetMap France, donc c'est openstreetmap.fr. Donc, tant qu'on y est sur OpenStreetMap France, quel est l'objet de l'association OpenStreetMap France ?
C'est vraiment assurer la promotion, c'est-à-dire être un contact un peu officiel et structuré, ce qui nous permet de signer des conventions, d'être un contact pour la presse, d'être un contact pour les services de l'État, l'administration, les collectivités. Ça nous permet d'organiser le State of the Map. On en a entendu parler juste avant avec...
Et on en reparlera tout à l'heure en détail.
Libre, voilà. Donc tous les ans, OpenStreetMap France organise une conférence annuelle en France qui est destinée plutôt aux contributeurs français et francophones. Et puis, le week-end dernier, s'est déroulée à Heidelberg, en Allemagne, la conférence internationale annuelle.
D'accord. Alors, petite question rapide, on en fait un tour d'horizon pour les personnes qui n'ont pas écouté la première émission. Petite question rapide sur l'utilisation d'OpenStreetMap. Une personne, qu'est-ce qu'elle va trouver sur OpenStreetMap? Est-ce qu'elle va trouver les mêmes choses qu'elle trouve sur d'autres sites de cartographie? Et deuxième question, est-ce que pour utiliser OpenStreetMap, c'est uniquement le site web ou est-ce qu'il y a des applications pour téléphone mobile qui sont disponibles?
Alors, le cœur d'OpenStreetMap, c'est une base de données. Une base de données, ça ne va pas parler à beaucoup de gens. Par contre, à partir de cette base de données, on peut produire des cartes, des fonds de cartes, on peut faire des calculs d'itinéraires, on peut faire des recherches de points d'intérêt, d'adresses. On fait une partie de tout ça sur le site d'OpenStreetMap.org, mais le but d'OpenStreetMap.org, ça n'est pas d'être l'outil le plus... à destination du grand public, c'est pas tellement ça. On a par contre plein d'autres outils qui ont été développés, des cartes plus ou moins spécialisées, des fonds de cartes qui sont plus destinés à des cyclistes par exemple, des applications qu'on a sur mobile, que ça soit Android ou sur iPhone. Et vous avez par exemple, je vais prendre un exemple sur la région Île-de-France. Il y a les données concernant les pistes cyclables, les données les plus précises et les plus à jour sont dans OpenStreetMap. Et il y a une application qui s'appelle GeoVélo qui depuis des années existe et collabore aussi avec la région Île-de-France pour améliorer les données, du coup améliorer les calculs qui sont faits par d'itinéraires qui sont faits par l'application. Et tout ça, c'est dans la base OpenStreetMap, c'est-à-dire que n'importe quelle amélioration bénéficie du coup vraiment à tout le monde.
Alors, c'est important, c'est ce que tu cites, notamment le rôle des collectivités. Dans l'émission précédente, notamment Jean-Christophe Becquet avait parlé du projet Dessine ta ville et aussi des liens avec les collectivités. Justement, quand on dit que toute personne peut contribuer à OpenStreetMap, ce n'est pas vraiment les personnes, c'est individuel, c'est aussi évidemment les collectivités, les entreprises, etc. Donc ça, c'est la partie utilisation. Donc évidemment, on mettra des références sur le site de l'April, mais je suppose que sur les sites OpenStreetMap.org et .fr, on retrouve des liens vers les différentes applications. Je crois qu'il y a une question qui revient assez souvent, et après on passera à la partie contribution, c'est le GPS et les gestions de trafic. Est-ce que c'est déjà présent dans OpenStreetMap? Est-ce que ça ne sera jamais présent pour diverses raisons?
Alors, la partie trafic qui est une donnée...
Partie trafic, voilà, exactement.
La partie trafic, ça c'est de la donnée souvent en temps réel. Et la base OpenStreetMap n'a pas vocation à décrire le monde en temps réel parce que ça serait un travail énorme d'arriver à ça. Et surtout, elle n'a pas été conçue pour ça à l'origine. On va dire que c'est une description froide du monde. Pour une description chaude, avec des données très changeantes, il y a d'autres possibilités. Moi, j'ai essayé de démarrer un projet qui s'appelle Open Event Database par rapport à ça. Aujourd'hui, le problème, c'est d'arriver à faire converger de la remontée d'informations libres dans une base libre. C'est encore un petit peu compliqué.
D'accord. Alors, notre invité suivant est déjà là. Il tapote sur le clavier, en fait, sur le salon web pour me signaler des choses. Et donc, plutôt que de répéter ce qu'il écrit sur le salon web, je propose donc que Laurent Costi nous explique ce qu'il a découvert la semaine dernière, qu'il trouve ça très intéressant. Et comme ça, on pourra avoir la réaction en direct de Christian Caisse. Donc, Laurent Costi.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors j'ai eu la chance de faire une formation la semaine dernière sur la question des données. Donc évidemment, la question d'OpenStreetMap a été abordée, d'autant qu'il y avait un militant d'OpenStreetMap qui était formateur. Donc voilà, j'ai pu découvrir des choses alors que j'avais appréhendé de loin, mais que je n'avais pas vraiment creusé. Et entre autres, j'ai découvert la page qui décrit finalement les contributions en temps réel sur OpenStreetMap. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire pour montrer toute l'implication et le nombre de personnes impliquées dans le monde pour contribuer à la base de données. J'ai trouvé ça vraiment génial. Enfin, ça devrait être beaucoup plus connu. Donc, j'ai mis le lien dans le...
Alors, le lien, c'est live.openstreetmap.fr.
Voilà. Et ça, ça vous montre, avec un très léger décalage, toutes les contributions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et, j'adore démarrer cette page dans un onglet masqué quand je fais une présentation. Et à la fin de la présentation, je passe sur cet onglet. Je dis, pendant cette présentation, il y a eu 4200 personnes qui ont rajouté 150 000 objets, etc. etc.
Donc, on est quand même un peu dans le temps réel, là. Hein, parce que pour le coup...
Alors, là, évidemment... c'est le temps réel des éditions. C'est un peu... y a quelque chose de similaire qui existe, je crois, pour Wikipédia, mais qui fait de la musique, qui fait des sons. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce truc-là. Non. Et ça permet d'avoir comme ça une sorte d'ambiance sonore qui vient des contributions Wikipédia en temps réel.
D'accord. Là, c'était l'utilisation. Et donc, On va passer un petit peu rapidement maintenant à la partie contribution. Et je répète, hein, lors de l'émission du 11 juin 2019, on avait abordé ça en détail. Donc n'hésitez pas à écouter le podcast, mais là on fait un petit récapitulatif. Donc la partie contribution à OpenStreetMap. Est-ce qu'il faut des connaissances particulières, notamment en cartographie ? Est-ce qu'il faut utiliser des outils particuliers ? Est-ce qu'il faut des droits particuliers pour rajouter des informations dans OpenStreetMap ? Et est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais, ou même que Laurent pourrait donner, pour quelqu'un qui veut se lancer dans OpenStreetMap, peut-être tout à l'heure, peut-être les cartoparties, tu pourrais expliquer ce que c'est, vu que tout à l'heure, Pascal Arnoux de Montpellier Libre en a parlé. Donc voilà, la contribution, comment on y va, qu'est-ce qu'on a besoin pour contribuer, quelles compétences sont nécessaires?
La façon la plus simple de contribuer, c'est d'aller sur le site openstreetmap.org, d'aller regarder son quartier sur OpenStreetMap, parce qu'on est tous experts géographiques de notre quartier, on le connaît. Quand on a assez zoomé, qu'on voit juste son quartier, il y a un onglet modifié. Et cet onglet modifié, on y a accès à partir du moment où on s'est ouvert un compte. Donc voilà, il suffit de s'ouvrir un compte sur le site, de cliquer ensuite sur l'onglet modifié et on peut rajouter. Il y a un petit tutoriel qui explique comment l'éditeur qui fonctionne dans le navigateur, comment le manipuler avec les concepts de base d'OpenStreetMap. Et puis, ça, c'est vraiment les premiers pas. Une cartopartie pour... Pour répondre à ta question, une cartopartie, c'est un événement qu'on essaye de faire sur une demi-journée, voire même sur une journée, où on va aller sur le terrain pour expliquer aux gens comment noter des informations, quelles sont les informations qui sont intéressantes à mettre dans la base OpenStreetMap. Et puis ensuite, on va faire une session justement de saisie, où on va montrer comment fonctionnent les outils de saisie. Alors, il y en a plusieurs, il n'y a pas que celui qui est sur le site web. Et ce qui permet du coup de démarrer en ayant quelqu'un qui nous tient la main, quoi.
D'accord. Alors, un point essentiel qu'on a déjà abordé la première fois, mais qu'il est important de répéter, c'est la limite sur les informations qu'on peut saisir. C'est que des informations publiques et non pas des données personnelles. On ne peut pas, par exemple, expliquer que tel voisin habite à tel endroit, etc. Donc, c'est vraiment des données publiques qu'on a récupérées de façon libre.
Oui, tout à fait. On s'arrête évidemment uniquement à l'information qui est publique, voire même pour certaines informations, même si elles sont accessibles publiquement. Parce que si on regarde sur une sonnette, on peut voir le nom de la personne. Ce n'est pas pour ça qu'on va le recopier.
Voilà. Ok. Et OpenStreetMap a joué un rôle important dans la cartographie de zones, notamment aussi de guerre ou de séisme. J'ai l'impression que c'est une des façons dont OpenStreetMap s'est fait le plus, quelque part, connaître, par la capacité, tout d'un coup, en réaction, de pouvoir réétablir la carte du monde alors que le monde a totalement été dévasté ou en tout cas a été grandement modifié.
Oui, c'est exact. On a eu, malheureusement, certains événements qui nous ont mis dans la lumière parce qu'on a pu aider, on a pu donner un coup de main, parce qu'on peut mobiliser aussi des centaines de personnes en très peu de temps pour aller cartographier des zones qui ont été ravagées, soit pour tremblements de terre, tsunamis, inondations, déplacements de population. Enfin, on a tous ces cas de figure-là. On a eu la lutte contre Ebola aussi, enfin, toutes ces choses-là. Mais il ne faudrait pas trop réduire OpenStreetMap à ce côté humanitaire. Même si c'est extrêmement utile et important, au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais il y a de plus en plus de données autour de chez nous qui proviennent d'OpenStreetMap et qui sont utilisées, y compris par des services officiels.
Un exemple, par exemple ?
Il y a certains fonds de cartes qui sont utilisés par la gendarmerie qui utilisent des données OpenStreetMap. Et puis, il y a des... tout à l'heure, je citais le cas des données géographiques sur les pistes cyclables. Donc là, c'est carrément la région qui...
La région Île-de-France.
La région Île-de-France qui finance la mise à jour des données géographiques.
Voilà. Laurent Costi,
est-ce que ça peut être le support de sciences collaboratives ?
Oui, aussi. Il y a... Les domaines les domaines que touche OpenStreetMap sont pas limités. Le nom, je dis souvent qu'il est assez mal choisi parce que Open, alors ça, oui, c'est, on est tous d'accord. Street, on fait vraiment pas que les rues. Et Map, on ne fait pas que des cartes avec ces données. Donc, ça devrait plutôt s'appeler, je pense, Open Geodata, mais c'est quand même moins sexy.
Ça a peut-être eu moins de succès, effectivement.
Ouais, ouais.
Tout à l'heure, tu parlais d'applications. Il y en a une qui est pas mal, que je trouve, pour les débutants, pour la réutiliser, c'est Street Complete. Parce que, en fait, tu te mets dans ton quartier et c'est une sorte de quête, en fait. Il manque des données à tel endroit et l'application commence par te poser des questions toutes simples, que tu es capable, par exemple les horaires de bus ou de la banque d'à côté. Et en fonction du nombre de quêtes que tu établis, bah, en fait, les questions deviennent de plus en plus élevées et permettent de contribuer. Donc c'est aussi une façon de démarrer avec OpenStreetMap. Je l'avais installé justement après l'émission de la dernière fois.
On a bien fait de venir alors.
Exactement, exactement. C'est aussi pour ça que je fais des émissions. C'est pour en apprendre plus sur les projets autour et pour éventuellement y participer. Bon, je pense qu'on a peut-être sans doute fait le tour sur la réintroduction de globalement d'OpenStreetMap. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là ou Laurent ?
Non, je pense, pour moi c'est bon, je pense qu'on a un peu fait le tour.
Moi j'ai posé les questions au fur et à mesure.
C'est donc toi tu poses les questions au fur et à mesure. Alors, on va aborder d'autres sujets, et puis notamment on va commencer déjà par... parce que si on t'a invité aujourd'hui, le 24 septembre 2019, c'est pas totalement par hasard, c'est que tu reviens d'Allemagne, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Où c'est déroulé, donc State of the Map Monde, donc en français on dirait l'état de la carte.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà, un peu, voilà, même si bon. Donc d'abord, c'est quoi State of the Map Monde ? Et quelles sont les nouvelles du projet OpenStreetMap, donc peut-être une nouvelle direction, les nouveaux projets à venir, les évolutions?
Un State of the Map, c'est notre grand événement annuel qui sert à plusieurs choses. La première chose, c'est déjà se voir, parce qu'on échange, c'est un projet en ligne, mais c'est quand même bien de pouvoir discuter en chair et en os avec quelqu'un, en direct, souvent avec une boisson pétillante. On a tellement de choses à se raconter qu'on ne peut pas faire vraiment en ligne. C'est vraiment génial pour ça. On a évidemment des conférences, des présentations très nombreuses sur plein de sujets. Et c'est à chaque fois l'occasion de découvrir ce qui est fait dans d'autres pays, dans d'autres communautés. Et c'est une façon, voilà, d'échanger les compétences et les savoirs un petit peu partout. Et pour ça, ça dure malheureusement que 3 jours, mais je pense qu'on pourrait durer une semaine tellement on a de sujets à aborder. Et là, à Heidelberg, on était un peu plus de 500 qui venaient, alors beaucoup d'Europe, hein, parce que c'est évidemment la proximité. Mais on avait aussi des gens qui venaient d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, un petit peu partout.
D'accord. Et est-ce qu'il y a donc, quelles sont les nouveautés ou les actus phares suite à State of the Map ?
Moi, il y a un sujet qui m'a que je pense de plus en plus présent, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre sphère. On fait beaucoup de contributions en se basant sur des images aériennes, des photos aériennes, et il y a de plus en plus d'acteurs qui font partie des GAFA en général. On a Microsoft, on a Facebook, voilà, qui s'intéressent pas mal à ce genre de choses et qui amène voilà, le côté intelligence artificielle, détection automatique de bâtiments, de routes et d'objets sur les photos aériennes, ce qui peut être une aide effectivement pour les contributeurs. Mais moi, ça me pose quelques petits problèmes. Ça vaut le coup d'en discuter, je pense. C'est qu'en fait, on alimente des modèles numériques, des modèles d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les réseaux de neurones aussi. Mais ces modèles, eux, ils ne sont pas ouverts. Et ça me pose un petit problème philosophique quand même, et de pousser les gens à contribuer parce que effectivement ça va nous aider à détecter des bâtiments, mais ça ne fait pas que ça. Et puis on n'a plus de contrôle et on perd une certaine autonomie qu'on avait avant. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ces sujets-là, parce que quand on est sur un site web et que le reCAPTCHA de Google nous oblige à...
Alors, explique juste ce que c'est qu'un reCAPTCHA.
Le reCAPTCHA, c'est quand il faut cocher là, je ne suis pas un robot, et puis que vous avez des photos où on vous demande, voilà, on vous demande de reconnaître. Alors, au tout début où ça existait, les reCAPTCHA, c'était par rapport à la reconnaissance d'écriture. Et puis petit à petit, ça a changé, et ça fait déjà plusieurs années que on vous demande de reconnaître des bicyclettes, des bus, des boutiques, etc. Des feux tricolores, c'est ça. Et ça sert en fait à entraîner les modèles de reconnaissance d'analyse d'image qui sont entre autres utilisés pour les véhicules autonomes. Donc en fait, c'est du travail gratuit.
Gratuitement pour Google, alors, ou
là,
les
oui,
autres.
Clairement, c'est du travail gratuit, voilà. Bon, contraint, parce qu'on est obligé de passer par ce barrage pour pouvoir accéder au service qu'il y a derrière. Donc là, bon, on y est contraint. Donc je lutte déjà un peu contre ça, mais ça me dérange quand on rentre dans du travail gratuit qui est non contraint, où là je me dis, bon, quand même, on pourrait peut-être réfléchir à avoir d'autres solutions que d'alimenter des modèles fermés, quoi.
D'accord, donc ça c'était une discussion à Set of the Map, et c'est en cours la discussion.
Il n'y a pas vraiment de discussion, c'est une réflexion que j'ai eue, et moi j'ai essayé d'entamer la discussion avec plusieurs personnes sur ce sujet-là, parce que je pense qu'on ne se rend pas toujours compte au tout début de l'arrivée d'une nouvelle technologie, à quel point elle peut rapidement nous réenfermer.
Que ça peut être un piège
oui.
Sur le long terme.
Oui.
D'accord, alors on va en parler, on va faire une petite pause musicale. Alors j'espère qu'en régie, alors d'ailleurs je profite en régie pour remercier Étienne, à la fois Étienne gère la régie et, pour être tout à fait transparent, il gère ma plus jeune fille, parce qu'aujourd'hui c'est grève école et donc ma plus jeune fille est à côté de lui. Donc on va faire une pause musicale, nous allons écouter Kolou Kolavi par les journées de création musicale Zik Libre en Bib. Nous avons écouté Kolou Kolavi par les journées de création musicale Zik Libre en Bib. Donc, musique libre sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Une licence qui est assez proche de la licence d'OpenStreetMap, mais ce n'est pas pour les mêmes types de données. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Donc, nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Alors, je répète que vous pouvez intervenir soit sur le webchat de la radio, soit en appelant au numéro 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. N'hésitez pas, Christian sera là pour répondre à vos questions. Alors, nous continuons donc à parler d'OpenStreetMap. Et en parlant de questions par téléphone, je vais relayer deux questions que j'ai reçues préalablement à l'émission. La première, qui est toute simple, hein, c'est la personne aimerait savoir si OpenStreetMap envisage de proposer l'ajout d'images satellites ou par drone, même si ce sera incomplet. Christian Kest.
Alors, sur le site openstreetmap.org, c'est pas tellement l'objectif de fournir ça. Par contre, les images aériennes, les images satellites, les images par drone, ça peut être extrêmement utile pour contribuer, c'est-à-dire pour améliorer les données de la carte. Par chance, on a depuis des années des partenariats ou des conventions avec des gens comme Bing ou avec une entreprise américaine qui s'appelle...
Bing, le moteur de recherche ?
Oui, Bing, le moteur de recherche de Microsoft, tout à fait. Et puis il y a Digital Globe, qui est une société américaine qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Maxar, qui a des satellites civils qui font de l'image très haute résolution, genre 30 cm par pixel, hein, ce qui est depuis un satellite, c'est pas mal. Et oui, il faut bien ranger son jardin maintenant, ça se voit sinon. Et donc, on peut utiliser, il nous autorise à utiliser tout ce fond d'images, ces pétas de pixels.
Alors, péta, c'est une mesure.
C'est une mesure, mais là, je pense qu'on est même au-delà des pétas.
Qui est très, très importante, on va dire.
Oui, hein. Les
gigas sont très loin, là.
On est très loin. C'est-à-dire, quand nous, on fait nos photos avec des mégapixels, là, on est dans des milliards de mégapixels. Et puis, on a aussi de plus en plus de photos aériennes qui sont disponibles en open data en France. On a à peu près la moitié du territoire métropolitain qui est disponible en open data, avec des résolutions qui varient de 20 cm par pixel à certains endroits. Là, maintenant, sur la région parisienne, les dernières, on est à 5 cm par pixel. Donc là, il faut vraiment bien ranger le jardin.
D'accord. Et ces données donc, sont sous la même licence libre.
Non, parce que ce sont des images, donc c'est base de données, donc c'est pas tout à fait les mêmes licences.
Oui,
et puis là, c'est de la donnée publique, donc en France, la réglementation vis-à-vis de la donnée publique, ça fait qu'on a une licence qui s'appelle la licence ouverte, qui est l'équivalent d'une CC BY, hein, pour simplifier. Et donc, on peut utiliser ces images et nous, on les reprend sur nos serveurs pour pouvoir les diffuser plus simplement pour les contributeurs. Par contre, on ne fournit pas de service pour afficher ça, par exemple, sur une carte, sur son site, parce que notre objectif aussi n'est pas vraiment de fournir des services, mais vraiment de fournir la donnée de base pour pouvoir créer ces services.
Et que les autres créent les services dont ils ont besoin.
Dont ils ont besoin avec la donnée de base.
Avec la donnée de base, d'accord. Alors la deuxième question, qui est un peu plus longue, mais qui permet aussi peut-être de rentrer dans un sujet qui est intéressant, qui est la gouvernance du projet et les choix. Donc je vais essayer de la résumer. C'est notamment, en fait, c'est par rapport, donc, quand on met à jour une donnée sur OpenStreetMap ou quand on la rajoute, on peut mettre un tag qui va décrire un lieu, un équipement. Et là, le cas présent qui m'a été soumis, c'est celui des écoles, qui, en fait, le tag donc, école est à la fois utilisé pour cartographier la surface occupée par un groupe scolaire et aussi pour cartographier individuellement chaque école qui en fait partie, en y associant les infos spécifiques. Et donc la personne m'a envoyé un lien avec, prenons un exemple à Saint-Denis, où une requête donnerait 6 écoles, alors qu'en fait il n'y en a que 4 en réalité. Et donc la personne m'explique qu'il y a eu plusieurs solutions en tout cas qui ont été proposées, oui, qu'il y a un débat sur des forums internes d'OpenStreetMap. Donc apparemment tu as suivi ces échanges, donc est-ce que tu peux nous dire, l'état de ces échanges et finalement comment la décision finale sera prise, si une décision finale doit être prise.
Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce cas-là. Ce qu'il y a, en fait, il n'y a jamais vraiment une décision très claire, très tranchée. Il y a une forme de consensus par l'action, c'est-à-dire les contributeurs vont trouver plus logique et plus cohérent de faire les choses d'une certaine façon. On se met d'accord globalement aussi en écrivant les choses sur un wiki qui nous sert un peu de référence. Mais il y a parfois des petites divergences, des petites différences entre ce que le wiki a prévu et puis la vraie façon dont les contributeurs cartographient. On a aussi des évolutions parfois dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans le détail au début, et puis petit à petit, il faut qu'on détaille un petit peu plus. Alors effectivement, là, typiquement, un groupe scolaire, ça peut regrouper plusieurs établissements scolaires, plusieurs écoles. Typiquement, une école primaire, vous allez avoir une section maternelle et une section... élémentaire. Voilà. Je cherchais les mots. Mais là, on a même encore d'autres problèmes, parce que, par exemple, l'équivalent d'une école maternelle dans beaucoup de pays étrangers n'est pas considéré comme une école, mais comme un jardin d'enfants. Donc on a même aussi des discussions, est-ce qu'on doit cartographier une école maternelle comme un jardin d'enfants, ou bien comme une école, mais avec des enfants en bas âge. Donc voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on cherche vraiment à trouver un consensus, à faire les choses simplement, parce que si on a une façon de modéliser les données qui est trop compliquée, trop éloignée de ce qui nous vient naturellement, ben, ça ne marche pas, quoi.
D'accord. Alors, ça me fait penser que la première fois, on l'avait un petit peu expliqué sur la structure OpenStreetMap. C'est qu'il n'y a pas, alors si je me souviens bien, on va voir si j'écoute bien mes émissions, il n'y a pas d'équipe salariée dans la fondation.
Il y a une fondation de droit anglais et il y a une personne qui s'occupe de l'administration générale.
Oui, c'est
générale,
ça, une personne, voilà.
Voilà, qui est salariée, mais il n'y a qu'une seule personne.
Mais qui n'y a pas de salarié, qui gère, on va dire, justement ce genre de discussion, donc tout se fait au niveau bénévole sur les forums. C'est des forums internes ou c'est des forums publics ?
Tout est public.
Tout est public.
Tout est public. Et là, et même au niveau de la fondation, il y a un board, etc., etc. Mais le board, c'est pas lui qui va prendre des décisions de ce type-là.
C'est le conseil d'administration.
Voilà, c'est le conseil d'administration de la fondation qui est là pour assurer la pérennité du projet. C'est sa mission principale. Et je crois que dans le manifeste de la création de la fondation, il y a la fondation soutient le projet mais ne le contrôle pas. Ce qui est quand même assez intéressant, je trouve.
Tout à fait. Alors, donc, ça, c'était donc la deuxième question. Donc, je remercie les deux personnes qui ont envoyé ces questions qui permettent d'avancer en tout cas dans la discussion. Et puis bon, j'ai découvert un exemple à Saint-Denis. Je pense que la personne a envoyé à Saint-Denis l'exemple de Saint-Denis parce que j'habite à Saint-Denis, donc je connais bien en plus cet espace scolaire effectivement qui regroupe beaucoup plus d'écoles au même endroit. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, il nous reste un petit peu de temps, donc à appeler le 09 50 39 67 59, je répète 09 50 39 67 59, ou à venir sur le salon web de la radio sur causecommune.fm. Tout à l'heure, on va revenir sur State of the Map. Tu nous avais parlé donc de l'arrivée de l'intelligence artificielle et des problématiques que cela pouvait causer. Tu m'avais aussi, dans le cadre de la préparation de l'émission, indiqué que tu souhaitais parler de l'extension du champ de l'ouverture démarrée par le code source. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu entends par là ?
J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On a beaucoup parlé au début d'ouverture, beaucoup des logiciels et des codes sources. Ensuite sont venues les données. Je pense que les données sont quand même venues un peu après. Et tout à l'heure, j'ai parlé justement des modèles qu'on entraîne avec ces données, donc qui sont un peu des résultats. Et je pense qu'il faut aussi aller vers un mouvement d'ouverture de ces modèles pour deux raisons. C'est que pour pouvoir les réutiliser, pour pouvoir ne pas avoir à refaire les mêmes entraînements. Aujourd'hui, entraîner des modèles d'intelligence artificielle, c'est quand même très coûteux en termes d'énergie, parce que c'est des gros calculs faits par des ordinateurs, ça consomme de l'électricité, etc. Il y a beaucoup de ressources qui sont mises en œuvre, et moi je trouve ridicule qu'on refasse le même travail alors qu'il a déjà été fait. Donc on devrait avoir aussi, pour moi, les open models, des modèles qui eux aussi sont ouverts, et pousser aussi dans ce sens-là pour que justement les contributions qu'on fait de façon volontaire, on soit sûr que le résultat lui aussi reste ouvert.
D'accord. Et donc, Laurent, vu que tu as pris la parole tout à l'heure, si tu te sens de poser des questions ou des réactions, n'hésite surtout pas, ton micro est ouvert, comme l'a signalé évidemment Étienne en régie. Alors, oui, je ne sais pas si on t'a bien entendu.
Oui, il y avait une erreur de micro branché, désolé.
Alors, donc Laurent va répéter, parce que le micro de Laurent n'était pas branché, vas-y.
Non, mais je disais que j'étais toujours d'accord. D'accord, oui, je suis toujours d'accord, même si vous ne m'avez pas entendu, je suis toujours d'accord avec Christian sur la nécessité d'avoir une visibilité sur le code qui pilote tout ça.
C'est plus que le code.
C'est plus que le code.
Dans le cas des modèles, c'est vraiment... Là, tu as un mélange entre... On a pris des données, on a utilisé du code pour faire fonctionner un réseau de neurones et on a entraîné un réseau de neurones, c'est un résultat. Et c'est ce résultat qu'on devrait aussi avoir conservé ouvert, ainsi que les données d'entraînement et bien sûr le code. C'est-à-dire, en fait, toutes les étapes, pour moi, elles devraient rester ouvertes.
Bon, en tout cas, ça... Je pense qu'on rajoutera ce sujet dans la liste des sujets à traiter dans l'émission, parce que c'est un sujet qui dépasse le cadre évidemment du logiciel libre ou autre, hein, et qui intéresse beaucoup de gens actuellement, à la fois des industriels, des politiques, et puis tout simplement les citoyens et les citoyennes. Donc on va, je pense, traiter ça un de ces jours. Un autre sujet, alors c'est pas forcément en lien direct avec OpenStreetMap, mais tu m'en as parlé, donc... dans les possibilités possibles, le sujet, ton ambition donc de créer un jeu complet, enfin le plus complet possible, de données disponibles en open data en France. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce projet ?
Alors, j'ai commencé ça cet été parce que l'open data en France, ça a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Hein. Il y a les premières collectivités, Rennes entre autres, ça a été une des premières collectivités à publier des données en open data. Aujourd'hui, les données qui ont été publiées il y a 10 ans, je vous mets au défi de les trouver. Or, elles peuvent encore être utiles parce qu'on peut les comparer à des données d'aujourd'hui, on peut voir les évolutions dans le temps, on peut voir tout ça. Et il n'y a pas d'archivage, à ma connaissance, de l'open data. Alors, j'aime beaucoup, par exemple, Web Archive, les archives du web, les archives d'Internet qui permettent de revenir sur...
Donc le site archive.org.
Archive.org, qui permet de revenir en arrière, de revoir à quoi ressemblait une page, un site, etc. C'est formidable. J'ai téléchargé par grande curiosité l'archive complète de tous les sites qui avaient été créés sur Geocities. Alors les anciens du web...
C'est quoi Geocities ?
Geocities, c'était... Un service qui permettait de se créer un site, de se créer sa home page, et dans les années 90-2000. Et il y avait des centaines de milliers de sites sur Geocities. C'était beaucoup plus simple de créer un site sur Geocities que de se créer son propre site à l'époque. Les blogs n'existaient pas, tout ça n'existait pas. Et c'est passionnant de regarder ce contenu. Si vous êtes fan de GIF, alors là, vous allez avoir une overdose.
Alors des GIFs, d'images.
Les GIFs, les images animées.
Parce qu'à l'époque, c'était des images GIFs animées.
C'est ça.
Et puis les couleurs très...
Très flashy, ouais.
Voilà.
Ah, ça, c'est... Aujourd'hui, on peut dire que c'est un petit peu kitsch, effectivement.
Mais aujourd'hui, c'est fait kitsch.
Mais c'est
à l'époque qui voulait ça.
Oui, ouais, mais on voit encore des sites de ce type-là. Mais voilà, donc... Les choses avancent tellement vite que dans le domaine du numérique, que si on prend pas le temps de se poser les questions et de s'occuper d'archiver certains trucs, ça disparaît. Ça disparaît très très vite parce que le numérique disparaît plus facilement que le papier finalement. Le papier, à moins qu'on fasse une action vraiment pour le détruire, il se détruit pas. Alors que le numérique, si on fait pas d'action pour le garder sur un disque qui sera encore lisible, on peut plus le lire. Donc voilà, donc je me suis lancé dans ce projet-là que j'ai appelé Open Data Archive. Pour l'instant, j'archive 150 portails Open Data qui sont disponibles en France, dont data.gouv qui est le portail national. Et j'ai à peu près 30 000 jeux de données qui sont archivés. Et surtout, l'archivage se fait tous les jours. Donc quand les données évoluent dans les jeux de données, je conserve les différentes versions.
Tu conserves l'historique.
Voilà. D'accord.
Donc le site, c'est opendataarchive.fr.
Alors pour l'instant... Pour l'instant, il ressemble vraiment à rien.
N'allez pas le voir pour le moment.
Voilà, n'allez pas le
voir.
Sauf
si vous avez envie de voir une longue listing de fichiers et puis un fichier qui s'appelle Lisez-moi.
Voilà, c'est très 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 brut pour l'instant. Voilà. On commence par archiver les fichiers, ensuite et la description des fichiers, ce qui est très important. Et ensuite, on pourra faire des choses intéressantes avec ça. Mais
et ensuite, voilà. On rajoutera les GIFs animés.
Non. Ah, on pourrait en mettre aussi.
Et du coup, salon est occupé par une quantité de disques durs incroyables, j'imagine.
Alors, ce n'est pas mon salon, c'est ma cave.
D'accord.
Et tout ça tourne dans mon futur chaton qui se trouve dans ma cave. Il y a eu des émissions sur les chatons. Donc, si vous n'avez pas écouté l'émission sur les chatons, vous allez pouvoir la réécouter. Et donc voilà, j'ai petit à petit accumulé du matériel. Et puis l'arrivée enfin de la fibre dans ma banlieue pas si lointaine de Paris m'a permis de passer à l'action.
Alors, je précise d'ailleurs en parlant des émissions passées, donc on a fait une émission sur les données publiques, donc le 2 octobre 2018 avec donc Tanguy Morlier de Regards Citoyens, Xavier Bern de Next Impact et Laurence Compara de la ville de Grenoble. Donc vous pourrez en apprendre plus là-dessus. Sur les chatons, donc c'est collectif d'hébergeurs qui proposent des services loyaux. On a fait deux émissions. Alors là, j'avoue que je n'ai pas les dates en tête, mais sur le site de l'April, vous trouverez facilement april.org ou sur causecommune.fm. Et c'est d'autant plus important que Framasoft a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient mettre un terme à un certain nombre de services dans les années à venir pour effectivement se déframatiser. Oh là, qu'est-ce que tu peux le faire?
Déframasoftiser le web.
Le web, voilà, exactement. Déframasoftiser Internet. Donc ça, c'est important.
Et on a exactement la même situation avec OpenStreetMap, où beaucoup de gens se disent « Oh, bah, je vais mettre le fond de carte d'OpenStreetMap, voilà. » Mais nous, nos serveurs, on ne peut pas les multiplier à l'infini. Et ça a un coût. Et donc, on pousse aussi, exactement comme Framasoft, hein, les gens qui ont besoin d'utiliser les données OpenStreetMap à déployer leur propre serveur pour être autonome. Les données et le code sont libres et gratuits. Par contre, les services, multiplier les machines, ça a un coût, ça nécessite de l'administration et tout ça, c'est géré bénévolement. On peut pas remplacer Google Maps, c'est pas possible pour ça.
Alors, je vais juste. Tout à l'heure, on parlait donc des modèles et des problématiques de droit et d'accès là-dessus. Sur le salon web de la radio, il y a Muman qui nous dit « C'est pareil pour la science. Est-ce qu'un papier qui se prétend scientifique mais basé sur un algorithme des données pas publiques permet réellement de répéter l'expérience et de refaire la conclusion ? Selon moi, non. » Et il indique un lien qui est un peu long, donc j'aurais du mal à le lire et que ce soit lisible, mais on le mettra sur le site web en référence. Donc c'est science, open access, publication et scientifique. Scientificité. Il y a des tests aujourd'hui pour parler. Voilà. Donc c'est une réponse un commentaire de Muman sur le salon web. Alors, le temps file et puis Laurent Costi va ensuite nous parler de Bénéval Libre. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet ou faire des annonces peut-être autour d'OpenStreetMap ou d'autres choses parce que tu fais plein de choses.
Non, mais je vais rester sur OpenStreetMap. Je suis venu pour ça. Je peux revenir pour d'autres sujets.
Avec plaisir.
J'ai une annonce très importante. Le prochain State of the Map international aura lieu à Cape Town du 3 au 5 juillet 2020.
Donc en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, si Cape Town... si ça ne change pas de nom d'ici là. Et le prochain State of the Map France aura lieu, lui, à Nantes. Je n'ai pas encore les dates.
Mais ce sera en 2020.
Ça sera, en 2020, oui, parce que l'année se termine bientôt. Et puis, on est très heureux aussi en tant que local chapter, c'est-à-dire... Chapitre local français. On est très heureux d'accueillir un nouveau local chapter irlandais qui a signé son acte, etc., pendant ce week-end. Donc voilà, on a des amis irlandais en plus. Ça fait qu'OpenStreetMap devient et peut devenir, je pousse pour ça, peut devenir une forme de fédération petit à petit de chapitres locaux pour avoir une gouvernance un petit peu plus équilibrée et diverse. Voilà.
Un peu comme Wikipédia quelque part.
Franchement, je connais pas.
Ils ont des chapitres locaux. Je maîtrise pas non plus,
mais je connais pas l'articulation.
D'accord.
Mais,
okay.
Mais souvent, c'est une articulation qui à l'origine est souvent descendante, ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une fondation internationale qui s'est créée, puis petit à petit, les chapitres locaux se sont créés. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment, il faut inverser la tendance quand il y a suffisamment de chapitres locaux pour que ça soit eux qui soient présents au conseil d'administration de la fondation internationale. Et voilà. Ça, c'est des histoires de gouvernance. C'est important, la gouvernance.
Ah, tout à fait. Alors, avant de conclure, une dernière question qui nous arrive sur le salon web. Alors, d'un œuf, Donc la question, c'est des suggestions d'outils pour visualiser, utiliser les données de transport public.
Oh là, la liste est longue. Sur le wiki, il y a plein de choses. Bon, on a déjà une couche cartographique qui permet de mettre en valeur les données de transport public. Maintenant, le transport public, ça se... il y a le transport collectif, il y a le covoiturage, il y a tous les transports en libre service, les vélos, les voitures, les trottinettes. Voilà, la mobilité, c'est un grand sujet. Et
Elle précise transport en commun.
Ouais, transport en commun. Je crois qu'on a un fond de carte qui met en valeur les lignes de transport en commun. Il est accessible directement depuis le openstreetmap.org. Et puis sinon, après, il y a des outils plus spécialisés, mais là, il faut aller fouiller dans le wiki, on pourra mettre un lien.
Alors, c'est ce qu'on fera, on mettra un lien sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune, dans les pages avec les références. Donc j'invite un œuf à regarder dès ce soir ou demain matin, et on mettra le lien vers ce wiki, et il pourra aller fouiller et trouver l'information. Bah, en tout cas, écoute, Christian, bah, merci. Il me met deux liens, donc un œuf me met deux liens... Oula, openptmap.org et openbusmap.org.
Oui, il y a aussi Jungle Bus qui est...
Jungle Bus de Noémie Lehubi.
Oui, voilà. Noémie, Florian, qui cherche à compléter les données bus, parce que c'est loin d'être complet, à compléter partout dans le monde les données de transport en commun de type bus.
Eh bien, écoute, merci Christian Kest. Donc, c'était Christian Kest d'OpenStreetMap France. Et puis, second intervenant, donc Laurent Costi, qui va intervenir. Alors, Laurent Costi, qui intervenait en tant qu'April, Fédération française des MJC, enfin, voilà, qu'on va retrouver dans quelques secondes. Et, un œuf nous dit ah, c'est exactement Jungle Bus que je cherchais. Eh bien, ravi qu'on ait pu répondre à cette question et apporter la réponse. Eh bien, Christian, je te souhaite une belle journée et on se reverra sans doute prochainement dans une émission Libre à vous.